Livre 8, chapitre 14. Comment la vérité triomphe. Réunion à Einsiedeln. Requête à l'évêque, aux confédérés. Les hommes d'Einsiedeln se séparent. Une scène dans un couvent. Un dîner chez Myconius. La force des réformateurs. Effet des requêtes à Lucerne. Le conseil et la diète. Allèrent à l'hôtel de ville. Fribourg. Destitution d'Oswald. Zwingli le console. Oswald quitte Lucerne, premier acte de rigueur de la diète, consternation des frères de Zwingli, résolution de Zwingli, l'avenir, prière de Zwingli. Cependant, des intérêts plus élevés encore préoccupaient alors les pensées des amis de la vérité. La diète, comme nous l'avons vu, pressée par les ennemis de la Réformation, avait enjoint aux prédicateurs évangéliques de ne plus prêcher des doctrines qui troublaient le peuple. Zwingli sentit que le moment d'agir était arrivé, et avec cette énergie qui le caractérisait, il convoqua à Einsiedeln les ministres du Seigneur, amis de l'Évangile. La force des chrétiens n'est ni dans la puissance des armes, ni dans les flammes des bûchers, ni dans les intrigues des partis, ni dans la protection des puissants du monde. Elle est dans une profession simple mais unanime et courageuse de ces grandes vérités auxquelles le monde doit être un jour soumis. Dieu appelle surtout ceux qui le servent à tenir ses doctrines célestes fermement élevées en présence de tout le peuple, sans se laisser épouvanter par les cris des adversaires. Ces vérités se chargent elles-mêmes d'assurer leur triomphe, et devant elles, comme jadis devant l'arche de Dieu, tombent les idoles. Le temps était venu où Dieu voulait que la grande doctrine du salut fût ainsi confessée dans la Suisse. Il fallait que l'étendard évangélique fût planté sur quelque hauteur. La Providence allait tirer de retraites ignorées des hommes humbles mais intrépides pour leur faire rendre un éclatant témoignage à la face de la nation. Vers la fin de juin et le commencement de juillet 1522, on voyait de pieux ministres se diriger de toutes parts vers la célèbre chapelle d'Einsiedeln pour un pèlerinage nouveau. D'Arth, dans le canton de Schwitz, venait le curé du lieu, Balthasar Trachel. De Weiningen, près Bade, le curé Staeli. De Zug, Werner Steiner. De Lucerne, le chanoine Kilchmeier. D'Uster, le curé Pifster. De Hong, près de Zurich, le curé Stumpf. De Zurich même, le chanoine Fabricius, le chapelain Schmid, le prédicateur de l'hôpital Grossmann et Zwingli. Léon Judas, curé d'Einsiedeln, reçut avec une grande joie dans l'antique abbaye tous ses ministres de Jésus-Christ. Depuis le séjour de Zwingli, ce lieu était devenu une citadelle de la vérité et une hôtellerie des justes. Ainsi, 215 ans auparavant, s'étaient réunis dans la plaine solitaire du Grütli 33 patriotes courageux décidé à rompre le joug de l'Autriche. Il s'agissait à Einsiedeln de briser le joug de l'autorité humaine dans les choses de Dieu. Zwingli proposa à ses amis d'adresser au canton et à l'évêque une requête pressante dans le but d'obtenir la libre prédication de l'Évangile et en même temps l'abolition du célibat forcé, source de si criminels désordres. Tous furent de cet avis. Ulrich avait lui-même préparé les adresses. La requête à l'évêque fut d'abord lue. C'était le 2 juillet 1522. Tous les évangélistes que nous avons nommés la signèrent. Une affection cordiale unissait en Suisse les prédicateurs de la vérité. Bien d'autres encore sympathisaient avec les hommes réunis à Einsiedeln. Tels étaient Aller, Myconius, Édion, Capiton, Hugo Lampade, Sébastien Meyer, Hofmeister et Vaner. Cette harmonie est l'un des plus beaux traits de la Réformation suisse. Ces personnages excellents agirent toujours comme un seul homme et demeurèrent amis jusqu'à la mort. Les hommes d'Einsiedeln comprenaient que ce n'était que par la puissance de la foi que les membres de la Confédération, divisé par les capitulations étrangères, pourrait devenir un seul corps. Mais leur regard se portait plus haut. La céleste doctrine, dirent-ils à leur chef ecclésiastique dans l'adresse du 2 juillet, cette vérité que le Dieu créateur a manifestée par son Fils au genre humain plongé dans le mal, a été longtemps voilée à nos yeux par l'ignorance, pour ne pas dire par la malice de quelques hommes. Mais ce Dieu tout-puissant a résolu de la rétablir en son état primitif. Joignez-vous à ceux qui demandent que la multitude des chrétiens retourne à son chef qui est le Christ. Pour nous, nous avons résolu de promulguer son évangile avec une infatigable persévérance et en même temps avec une sagesse telle que personne ne puisse se plaindre. Favorisez cette entreprise étonnante peut-être, mais non téméraire. Soyez comme Moïse sur le chemin, à la tête du peuple, au sortir de l'Égypte, et renversez vous-même les obstacles qui s'opposent à la marche triomphante de la vérité. Après ce chaleureux appel, les évangélistes réunis à Einsiedeln en venaient au célibat. Zwingli n'avait plus rien à demander à cet égard. Il avait pour épouse cette femme du ministre de Christ que décrit saint Paul, grave, sobre, fidèle en toutes choses, 1 Épître à Timothée, chapitre 3, verset 2. Mais il pensait à ses frères dont les consciences n'étaient point encore comme la sienne, affranchies des ordonnances humaines. Il soupirait d'ailleurs après le moment où tous les serviteurs de Dieu pourraient vivre ouvertement et sans crainte au sein de leur propre famille, tenant leurs enfants, dit l'apôtre, dans la soumission et dans toutes sortes d'honnêteté. « Vous n'ignorez pas, disaient les hommes d'Einsiedeln, combien jusqu'à présent la chasteté a été déplorablement violée par les prêtres. Lorsque dans la consécration des ministres du Seigneur on demande à celui qui parle au nom de tous, « Ceux que vous présentez, sont-ils justes ?» Il répond, « Ils sont justes. Sont-ils savants ? Ils sont savants. » Mais quand on demande « Sont-ils chastes ?» il répond « Autant que le permet la faiblesse humaine. » Tout dans le Nouveau Testament condamne un commerce licencieux. Tout y autorise le mariage. Ici vient la citation d'un grand nombre de passages. « C'est pourquoi, continue-t-il, nous vous en supplions, par l'amour de Christ, par la liberté qu'il nous a acquise, par la misère de tant d'âmes faibles et chancelantes, par les blessures de tant de consciences ulcérées par tout ce qu'il y a de divin ou d'humain, permettez que ce qui a été fait avec témérité soit annulé avec sagesse, de peur que le majestueux édifice de l'Église ne s'écroule avec un affreux fracas et n'entraîne après lui une immense ruine. Voyez de quels orages le monde est menacé. Si la sagesse n'intervient, ça n'est fait de l'ordre des prêtres. » La requête à la Confédération était plus longue. « Hommes excellents », ainsi parlaient aux confédérés à la fin de cette requête les alliés d'Einsiedeln. « Nous sommes tous Suisses, et vous êtes nos pères. Il en est parmi nous qui se sont montrés fidèles dans les combats, dans les pestes et dans d'autres calamités. C'est au nom de la véritable chasteté que nous vous parlons. Qui ne sait que nous satisferions beaucoup mieux la licence de la chair en ne nous soumettant point aux lois d'une union légitime ? Mais il faut faire cesser les scandales qui affligent l'Église de Christ. Si la tyrannie du pontife de Rome veut nous opprimer, ne craignez rien, héros courageux. L'autorité de la parole de Dieu, les droits de la liberté chrétienne et la puissance souveraine de la grâce nous gardent et nous entourent. Nous avons la même patrie, nous avons la même foi, nous sommes Suisses et la vertu de nos illustres ancêtres a toujours manifesté sa puissance par une défense indomptable de ce qu'opprimait l'iniquité. Ainsi, c'est dans Einsiedeln même, dans cet antique boulevard de la superstition qui de nos jours encore est l'un des plus fameux sanctuaires des pratiques romaines, que Zwingli et ses amis levaient d'une main hardie l'étendard de la vérité et de la liberté. Ils en appelaient aux chefs de l'État et de l'Église. Ils affichaient leur thèse comme Luther, mais à la porte du palais épiscopal et à celle des conseils de la nation. Les amis réunis à Einsiedeln se séparèrent calmes, joyeux, plein d'espérance en ce Dieu auquel ils avaient remis leur cause, et passant les uns près du champ de bataille de Morkarten, les autres au-dessus de la chaîne de l'Albris, d'autres encore par d'autres vallées ou d'autres monts, ils retournèrent tous à leur poste. C'était vraiment quelque chose de grand pour ces temps-là, dit Henri Bullinger, que ces hommes eussent ainsi osé se mettre en avant et se rangeant autour de l'Évangile, se fussent exposés à tous les dangers. Mais Dieu les a tous gardés, en sorte qu'aucun mal ne les a atteints, car Dieu conserve les siens en tout temps. C'était en effet quelque chose de grand, C'était un pas hardi dans la marche de la réforme, un des jours les plus illustres de la régénération religieuse de la Suisse. Une sainte confédération s'était formée à Einsiedeln. Des hommes humbles et courageux avaient saisi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu et le bouclier de la foi. Le gant était jeté, le défi était donné, non plus seulement par un seul homme, mais par des hommes de divers cantons, prêts à sacrifier leur vie. Il fallait attendre la bataille. Tout annonçait qu'elle serait rude. Déjà 5 jours après le 7 juillet, le magistrat de Zurich, voulant donner quelques satisfactions au parti romain, fit comparaître Konrad Grebel et Klaus Oettinger, deux de ces hommes extrêmes qui semblaient vouloir aller au-delà d'une sage réformation. « Nous vous défendons, dit le bourgmestre Roust, de parler contre les moines et sur les points controversés. » À ces mots, il se fit dans la chambre un bruit éclatant, dit une ancienne chronique. Dieu se manifestait tellement dans cette œuvre que l'on voulait voir partout des signes de son intervention. Chacun regarda étonné autour de soi, sans que l'on pût reconnaître la cause de cette mystérieuse circonstance. Mais c'était surtout dans les couvents que l'indignation était portée à un haut degré. Chaque réunion qui s'y tenait, soit pour discuter, soit pour se réjouir, voyait éclater quelque attaque nouvelle. Un jour qu'il y avait un grand festin dans le couvent de Frauenbrunn, le vin étant monté à la tête des convives, ils commencèrent à lancer contre l'Évangile les traits les plus acérés. Ce qui excitait surtout la colère de ces prêtres et de ces moines, c'était cette doctrine évangélique que dans l'Église chrétienne, il ne doit pas y avoir de caste sacerdotale élevée au-dessus des croyants. Un seul ami de la Réformation, simple laïc, Macrin, maître d'école à Soleure, était présent. Il évita d'abord le combat, passant d'une table à l'autre. Mais enfin, ne pouvant plus endurer les cris emportés des convives, il se leva avec courage et dit à haute voix « Oui, tous les vrais chrétiens sont prêtres et sacrificateurs suivant ce que dit saint Pierre. Vous êtes sacrificateurs et rois. » À ces mots, l'un des plus intrépides crieurs, le doyen de Burgdorf, homme grand, fort et d'une voix retentissante, partit d'un éclat de rire. « Ainsi donc, vous autres petits grecs et rats d'école, vous êtes la sacrificature royale. Belle sacrificature, roi mendiant, prêtre sans prébende et sans bénéfice. » Et à l'instant, prêtres et moines tombèrent d'un même accord sur le laïc imprudent. C'était pourtant dans Lucerne que la démarche hardie des hommes d'Einsiedeln devait produire la plus forte commotion. La diète était assemblée dans cette ville et il y arrivait de toutes parts des plaintes sur ces prédicateurs téméraires qui empêchaient l'Helvétie de vendre tranquillement aux étrangers le sang de ses fils. Le 22 juillet 1522, comme Oswald Mikonius était à dîner chez lui avec le chanoine Kirchmeyer et plusieurs autres hommes bien disposés pour l'Évangile, un jeune garçon envoyé par Zwingli se présenta à sa porte. Il apportait les 2 fameuses pétitions d'Einsiedeln et une lettre de Zwingli qui demandait à Oswald de les répandre dans Lucerne. « Mon avis, ajoutait le réformateur, est que la chose se fasse tranquillement, peu à peu, plutôt que d'un seul coup, car pour l'amour de Christ, il faut savoir abandonner tout, et même sa femme. » La crise approchait ainsi pour Lucerne. La bombe y était tombée et devait éclater. Les convives lisaient les requêtes. « Que Dieu bénisse ce commencement !» s'écria Oswald en regardant au ciel. Puis il ajouta « Cette prière doit être dès cet instant l'occupation constante de nos cœurs. » Aussitôt les requêtes furent répandues, peut-être avec plus d'ardeur que Zwingli ne l'avait demandé. Mais le moment était unique. 11 hommes, l'élite du clergé, s'étaient mis à la brèche. Il fallait éclairer les esprits, décider les caractères irrésolus, entraîner les membres les plus influents de la diète. Oswald, au milieu de ce travail, n'oubliait pas son ami. Le jeune messager lui avait raconté les attaques que Zwingli avait à endurer de la part des moines de Zurich. « La vérité de l'Esprit Saint est invincible, » lui écrivit Mikonius le jour même. « Armé du bouclier des Saintes Écritures, tu es demeuré vainqueur, non dans un combat seulement, non dans 2, mais dans 3, et déjà le 4e commence. » Saisis ces armes puissantes, plus dures que le diamant. Christ, pour protéger les siens, n'a besoin que de sa parole. Tes luttes inspirent un indomptable courage à tous ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ. Les 2 requêtes ne produisirent point à Lucerne l'effet attendu. Quelques hommes pieux les approuvaient, mais ils étaient en fort petit nombre. Plusieurs, craignant de se compromettre, ne voulaient ni louer ni blâmer. « Ces gens, disaient d'autres, n'amèneront jamais à bonne fin cette affaire. » tous les prêtres murmuraient, parlaient bas, grommelaient entre les dents. Quant au peuple, il s'emportait contre l'Évangile. La fureur des combats s'était réveillée dans Lucerne, après la sanglante défaite de la Bicoque, et la guerre occupait seule tous les esprits. Oswald, qui observait attentivement ces impressions différentes, sentit alors son courage s'ébranler. L'avenir évangélique qu'il avait rêvé pour Lucerne et la Suisse semblait s'évanouir. « Notre peuple est aveugle quant aux choses du ciel, » dit-il, en poussant un profond soupir. « Il n'y a rien à espérer des Suisses pour ce qui regarde la gloire de Christ. » C'était surtout dans le Conseil et à la Diète que la colère était grande. Le pape, la France, l'Angleterre, l'Empire, tout s'agitait autour de la Suisse, après la défaite de la Bicoque et l'évacuation de la Lombardie par les Français sous les ordres de Lautrec. Les intérêts politiques n'étaient-ils pas en ce moment assez compliqués sans que ces 11 hommes vinssent avec leurs requêtes y ajouter encore des questions religieuses? Les députés de Zurich penchaient seuls du côté de l'Évangile. Le chanoine Zilotect, craignant pour sa vie et pour celle de sa femme, car il avait épousé une fille de l'une des premières maisons du pays, avait, en versant des larmes de regret, refusé de se rendre à Essilden et de signer les adresses. Le chanoine Kilchmeyer s'était montré plus courageux. Aussi avait-il tout à craindre. « Un jugement me menace », écrivait-il le 13 août à Zwingli. « Je l'attends avec courage ». Comme il traçait ces mots, l'huissier du conseil entra dans sa chambre et l'assigna à comparaître pour le lendemain. « Si l'on me jette dans les fers, » dit-il en continuant sa lettre, « je réclame ton secours. Mais il sera plus facile de transporter un rocher de nos Alpes que de m'éloigner de la largeur d'un doigt de la parole de Jésus-Christ. » Les égards que l'on crut devoir à sa famille et la résolution que l'on prit de faire fondre l'orage sur Oswald sauvèrent le chanoine. Berthold Haller, peut-être parce qu'il n'était pas suisse, n'avait pas signé les requêtes. Mais, plein de courage, il expliquait comme Zwingli l'Évangile selon saint Matthieu. Une grande foule remplissait la cathédrale de Berne. La parole de Dieu agissait avec plus de puissance sur le peuple que les drames de Manuel. Haller fut cité à l'hôtel de ville. Le peuple y accompagna cet homme débonnaire et demeura réuni sur la place. Le conseil était partagé. « Cela concerne l'évêque, » disaient les hommes les plus influents. « Il faut livrer le prédicateur à Monseigneur de Lausanne. » Les amis de Haller tremblèrent à ses paroles et lui firent dire de se retirer en toute hâte. Le peuple l'entoura, l'accompagna, et un grand nombre de bourgeois armés demeurèrent devant sa maison, prêts à faire à leur humble pasteur un boulevard de leur corps. L'évêque et le conseil reculèrent devant cette énergique manifestation et Haller fut sauvé. Au reste, Haller n'était pas le seul qui combattit à Berne. Sébastien Meyer réfuta alors la lettre pastorale de l'évêque de Constance et en particulier cette banale accusation que les disciples de l'Évangile enseignent une nouvelle doctrine que c'est l'ancienne qui est la vraie. « Avoir tort depuis 1000 ans, dit-il, n'est pas avoir raison pendant 1 heure. Autrement, les païens auraient dû demeurer dans leur foi. » Si les doctrines les plus anciennes doivent l'emporter, 1500 ans sont plus que 500 ans et l'Évangile est plus ancien que les ordonnances du pape. À cette époque, les magistrats de Fribourg surprirent des lettres adressées à Haller et à Meyer par un chanoine de Fribourg nommé Jean Hollard, natif d'Orbe. Ils l'emprisonnèrent, puis le destituèrent et enfin le bannirent. Un chantre de la cathédrale, Jean Vanius, se déclara bientôt pour la doctrine évangélique. Car dans cette guerre, un soldat n'est pas tombé, que notre déjà occupe sa place. « Comment l'eau bourbeuse du Tibre, disait Vanius, pourrait-elle subsister à côté de l'onde pure que Luther a puisée à la source de Saint-Paul ? » Mais le chantre aussi eut la bouche fermée. Il y a à peine dans toute la Suisse des hommes plus mal disposés envers la sainte doctrine que ne le sont les fribourgeois, écrivait Myconius à Zwingli. Il y avait pourtant une exception à faire à l'égard de Lucerne, et Myconius le savait. Il n'avait pas signé les fameuses requêtes, mais si ce n'était lui, c'était ses amis, et il fallait une victime. Les lettres antiques de la Grèce et de Rome commençaient, grâce à lui, à jeter quelque éclat dans Lucerne. On y accourait de divers lieux pour entendre le savant professeur, et les amis de la paix y écoutaient avec charme un son plus doux, que celui des halbardes, des épées et des cuirasses, qui seuls jusqu'alors avaient retenti dans la belliqueuse cité. Oswald avait tout sacrifié pour sa patrie. Il avait quitté Zurich et Zwingli. Il avait perdu la santé, sa femme était languissante, son fils était en bas âge. Si une fois Lucerne le rejetait, il ne pouvait nulle part espérer un asile. Mais n'importe, les partis sont impitoyables, et ce qui devrait émouvoir leur compassion excite leur colère. Erstenstein, bourgmestre de Lucerne, vieux et vaillant guerrier qui avait acquis un nom célèbre dans les guerres de Souabe et de Bourgogne, poursuivait la destitution du maître d'école et voulait chasser avec lui du canton son grec, son latin et son évangile. Il réussit. En sortant de la séance du conseil dans laquelle on avait destitué Mykonius, Erstenstein rencontra le député zurichois Berger. « Nous vous renvoyons votre maître d'école, » lui dit-il ironiquement. « Préparez-lui un bon logement. Nous ne le laisserons pas coucher en plein air, » répondit aussitôt le courageux député. Mais Berger promettait plus qu'il ne pouvait tenir. La nouvelle donnée par le bourgmestre n'était que trop vraie. Elle fut bientôt signifiée au triste Mykonius. Il est destitué, banni, et le seul crime qu'on lui reproche, c'est d'être disciple de Luther. Il porte partout ses regards, et nulle part il ne trouve un abri. Il voit sa femme, son fils, lui-même, être faible et maladif, repoussé de leur patrie, et tout autour de lui, la Suisse agitée par une forte tourmente qui brise et détruit tout ce qui ose la braver. « Voici, dit-il alors à Zwingli, le pauvre Mykonius, chassé par le conseil de Lucerne. Où irai-je? Je ne sais. Assailli vous-même par de si furieux orages, comment pourriez-vous m'abriter? Je crie donc dans mes tribulations à ce Dieu qui est le premier en qui j'espère. Toujours riche, toujours bon, il ne permet pas qu'aucun de ceux qu'il invoque s'éloigne de sa face sans être exaucé, qu'il pourvoie à mes besoins. » Ainsi disait Oswald. La parole de consolation ne se fit pas longtemps attendre. Il y avait en Suisse un homme aguerri au combat de la foi. Zwingli s'approcha de son ami et le releva. « Les coups par lesquels on s'efforce de renverser la maison de Dieu sont si rudes, lui dit Zwingli, et les assauts qu'on lui livre sont si fréquents que ce ne sont plus seulement les vents et la pluie qui fondent sur elle, comme l'a prédit le Seigneur, évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 27, mais la grêle et la foudre. Si je n'apercevais le Seigneur qui garde le navire, j'eusse dès longtemps jeté le gouvernail à la mer. Mais je le vois à travers la tempête, affermir les cordages, diriger les vergues, tendre les voiles, que dis-je, commander au vent même. Ne serais-je donc pas un lâche, indigne du nom d'homme, si j'abandonnais mon poste pour trouver dans la fuite une honteuse mort? Je me confie tout entier en sa bonté souveraine, qu'il gouverne, qu'il transporte, qu'il se hâte, qu'il retarde, qu'il précipite, qu'il arrête, qu'il brise, qu'il submerge, qu'il nous plonge même jusqu'au fond de l'abîme. Nous ne craignons rien. Nous sommes des vases qui lui appartiennent. Il peut se servir de nous comme il lui plaît, pour l'honneur et pour l'ignominie. » Après ces paroles, pleines d'une foi si vive, Zwingli continue. « Quant à toi, voici mon avis. Présente-toi devant le conseil. Prononce-y un discours digne de Christ et de toi. Nie que tu sois disciple de Luther, déclare que tu l'es de Jésus-Christ, que tes élèves t'entourent et qu'ils parlent, et si tout cela ne réussit pas, viens vers ton ami, viens vers Zwingli et regarde notre ville comme tes propres foyers. » Oswald, fortifié par ces paroles, suivit le noble conseil du réformateur. Mais tous ses efforts furent inutiles. Le témoin de la vérité devait quitter sa patrie. Et les Lucernois le décriaient tellement que partout les magistrats s'opposaient à ce qu'on lui offrit un asile. « Il ne me reste plus, » s'écria le confesseur de Jésus-Christ, l'âme brisée à la vue de tant d'inimitié, qu'à mendier de porte en porte, de quoi soutenir ma triste vie. Bientôt, l'ami de Zwingli, son aide le plus puissant, le premier homme qui eut uni en Suisse l'enseignement des lettres et l'amour de l'Évangile, le réformateur de Lucerne et plus tard l'un des chefs de l'Église helvétique, dut quitter, avec sa faible épouse et son petit enfant, cette ingrate cité où de toute sa famille une seule de ses sœurs avait reçu l'Évangile. Il passa ses ponts antiques, il salua ses montagnes qui semblent s'élever du sein du lac des Waldstätten jusqu'à la région des Nues. Les chanoines Zillotecht et Kilchmeyer, les seuls amis que la Réformation comptât encore parmi ses compatriotes, le suivirent de près. Et au moment où ce pauvre homme, accompagné de deux êtres faibles dont l'existence dépendait de lui, les regards tournés vers son lac, versant des larmes sur son aveugle patrie, dit adieu à cette nature sublime dont la majesté avait entouré son berceau, l'Évangile lui-même sortit de Lucerne et Rome y règne jusqu'à ce jour. Bientôt la diète elle-même, assemblée à Bade, excitée par les rigueurs déployées contre Mykonius, irritée par les requêtes d'Einsiedeln, qui livrées à la presse produisaient partout une grande sensation, sollicité par l'évêque de Constance, qui lui demandait de frapper enfin les novateurs, se jeta dans la voie des persécutions, ordonna aux autorités des bailliages communs de lui dénoncer tous les prêtres et laïcs qui parleraient contre la foi, fit saisir dans son impatience l'évangéliste qu'elle trouva le plus près d'elle, Hubert Weiss, pasteur de Philippach, qui avait été antérieurement relâché sous caution, et le fit mener à Constance, où elle le livra à l'évêque qui le retint longtemps en prison. Ce fut ainsi, dit la chronique de Bullinger, que commencèrent les persécutions des confédérés contre l'Évangile, et cela eut lieu à l'instigation du clergé qui, en tout temps, a traduit Jésus-Christ devant Hérode et Pilate. Zwingli ne devait pas être à l'abri de l'épreuve. Les coups les plus sensibles lui furent alors portés. Le bruit de ses doctrines et de ses combats avait passé le Sanctis, pénétré dans le Toggenburg et atteint les hauteurs de Wildhaus. La famille des pâtres d'où le réformateur était sorti en avait été émue. Les cinq frères de Zwingli, quelques-uns n'avaient pas cessé de s'occuper paisiblement des travaux des montagnes, tandis que d'autres, à la grande douleur de leurs frères, avaient pris quelquefois les armes, quitté leurs troupeaux et servi les princes étrangers. Les uns et les autres étaient consternés des nouvelles que la renommée apportait jusque dans leur chalet. Déjà, ils voyaient leurs frères saisis, traînés peut-être à Constance vers son évêque et un bûcher s'élevant pour lui à la même place qui avait consumé le corps de Jean Hus. Ces fiers bergers ne pouvaient supporter l'idée d'être appelés les frères d'un hérétique. Ils écrivirent à Ulrich. Ils lui dépeignirent leurs peines et leurs craintes. Zwingli leur répondit « Tant que Dieu me le permettra, je m'acquitterai du travail qu'il m'a confié sans craindre le monde et ses tyrans superbes. Je sais tout ce qui peut m'arriver. Il n'est pas de danger, pas de malheur que je n'ai dès longtemps pesé avec soin. Mes forces sont le néant même, et je sais la puissance de mes ennemis, mais je sais aussi que je puis tout en Christ qui me fortifie. Quand je me tairai, un autre serait contraint de faire ce que Dieu fait maintenant par moi, et moi je serai puni de Dieu. Rejetez loin de vous, ô mes chers frères, toutes vos sollicitudes. Si j'ai une crainte, moi, c'est d'avoir été plus doux et plus traitable que notre siècle ne le comporte. Quelle honte, dites-vous, ne rejaillira pas sur toute notre famille, située ou brûlée ou mise à mort de quelque autre manière. Ô frères bien-aimés, l'Évangile tient du sang de Christ cette nature étonnante, que les persécutions les plus violentes, loin d'arrêter sa marche, ne font que la hâter. Ceux-là seuls sont de vrais soldats de Christ qui ne craignent pas de porter en leur corps les blessures de leur maître. Tous mes travaux n'ont d'autre but que de faire connaître aux hommes les trésors du bonheur que Christ nous a acquis, afin que tous se réfugient vers le Père par la mort de son Fils. Si cette doctrine vous offense, votre colère ne saurait m'arrêter. Vous êtes mes frères, oui, mes propres frères, les fils de mon Père, et le même Saint nous a portés. Mais si vous n'étiez pas mes frères en Christ et dans l'œuvre de la foi, alors ma douleur serait si véhémente que rien ne saurait l'égaler. Adieu. Je ne cesserai jamais d'être votre véritable frère, si seulement vous ne cessez pas vous-même d'être les frères de Jésus-Christ. Les confédérés semblaient se lever comme un seul homme contre l'Évangile. Les requêtes d'Einsiedeln leur en avaient donné le signal. Zwingli, ému du sort de son cher Myconius, ne voyait dans son infortune que le commencement des calamités. Des ennemis dans Zurich, des ennemis au dehors, les propres parents d'un homme devenant ses adversaires, opposition furieuse de la part des moines et des prêtres, mesures violentes de la diète et des conseils, attaques grossières, sanglantes peut-être, de la part des partisans du service étranger, les plus hautes vallées de la Suisse, ce berceau de la Confédération, vomissant des phalanges de soldats invincibles pour sauver Rome et pour anéantir au prix de la vie la foi renaissante des fils de la Réformation, voilà ce que découvrait dans le lointain, en frémissant, l'esprit pénétrant du réformateur. Quel avenir ! L'œuvre à peine commencée n'allait-elle pas se dissoudre ? Zwingli, pensif, agité, exposa alors à son Dieu toute son angoisse. « Ô Jésus, dit-il, tu vois comment des méchants et des blasphémateurs étourdissent de leurs cris les oreilles de ton peuple. Tu sais combien, dès mon enfance, j'ai haï les disputes, et cependant, malgré moi, tu n'as cessé de me pousser au combat. C'est pourquoi je t'appelle avec confiance, afin que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Si j'ai mal édifié quelque chose, abat-le de ta puissante main. Si j'ai posé quelque autre fondement à côté de toi, que ton bras redoutable le renverse. Ô cèpe plein de douceur, dont le Père est le vigneron et dont nous sommes les sarments, n'abandonne pas tes provins, car tu as promis d'être avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Ce fut le 22 août 1522 qu'Ulrich Zwingli, réformateur de la Suisse, voyant descendre des montagnes de gros orages sur la frêle nacelle de la foi, épancha ainsi devant Dieu les troubles et les espérances de son âme.